VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 août 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, l'opposition rejette l'appel de la SADC à la CENI pour un calendrier révisé des élections.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Stephen O'Brien, répète devant le Conseil de sécurité de l'ONU sa mise en garde contre les signes avant-coureurs de génocide en RCA.
Au Niger, 3 policiers ont été condamnés pour avoir tabassé un étudiant.
Au Nigeria, 6 hommes ont été tués dans un village du nord-est du Nigeria lors d'une attaque de combattants de Boko Haram.
Diatribe du président Donald Trump contre les médias américains dans un rassemblement politique hier soir à Phoenix, dans l'Arizona.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'opposition a réagi à l'appel lancé à la CENI par la SADC qui lui demande de publier un calendrier révisé au motif qu'il est impossible d'organiser les élections en décembre 2017. Pour l'opposition congolaise, la SADC a choisi son camp et opté pour la protection du président Joseph Kabila. Le point avec Eddie Sango.
On ne comprend pas comment aujourd'hui la SADC peut choisir son camp et choisir un dictateur.
La réaction est de Martin Fayulu, un des sages du rassemblement. La principale plateforme de l'opposition congolaise a fait une prise de position contre le communiqué final du 37e sommet de la SADC clôturé dimanche en Afrique du Sud. Dans ce communiqué, la SADC note qu'il ne serait peut-être pas possible de tenir des élections en décembre 2017 en raison d'un nombre de défis. La communauté de développement demande à la CENI de publier un calendrier électoral révisé. L'opposition oppose à la SADC l'accord du 31 décembre qui a décidé que M. Joseph Kabila devrait partir au plus tard le 31 décembre de cette année, dit Fayulu. L'opposition rappelle que les Nations Unies demandent dans une résolution le respect du dit accord. La SADC a également, lors de ses 37e sommet, approuvé la nomination de l'envoyé spécial en RDC avec pour mission d'y suivre les processus électoraux. Mais l'opposition congolaise prévient qu'elle n'acceptera pas un troisième dialogue pour repousser les élections.
Élections générales aujourd'hui en Angola, le candidat du parti au pouvoir, João Lourenço, reste favori. Il a promis en cas de victoire un miracle économique. Le point avec Solange Niamulisa.
Candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, l'ex-ministre de la Défense est donné grand favori. Il devrait succéder à José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 ans de règne. L'Angola, depuis 3 ans, subit de plein fouet la chute de cours de l'or noir, ce qui a contribué à l'endettement, une inflation galopante et la chute de la monnaie locale. Monsieur Lourenço promet le miracle et dit compter sur les capitaux étrangers. Les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la CASACE, ont dénoncé les conditions inégales de la campagne électorale. Ses opposants accusent le MPLA au pouvoir d'avoir utilisé les moyens de l'État et de s'être accaparé les médias.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, le Britannique Stephen O'Brien, a répété hier devant le Conseil de sécurité qu'en Centrafrique, où les violences s'étendent, des signes avant-coureurs de génocide existent. C'est ce qu'ont révélé des diplomates à New York à l'issue de discussions fermées à la presse et réclamées en urgence par la France. Monsieur O'Brien avait lancé sa mise en garde au début du mois en rendant compte d'un récent voyage en Centrafrique et en réclamant davantage de militaires et de policiers pour l'opération de paix de l'ONU, la MINUSCA.
En Centrafrique même, une centaine de maisons se sont écroulées à la suite des pluies diluviennes dans le nord de Bangui, forçant un millier de personnes à quitter leur domicile. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les quartiers de Bangui Ngola 3, Potopoto, Pekadis, Begua et les villages Nzako et Tungufara ont aussi été touchés par les fortes pluies. Au moins 1000 personnes ont été déplacées, selon Patrick Bidouli Niabodé, directeur général de la protection civile. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont considérables, selon Jean-Emmanuel Gazangiza, maire de Begua. Les sinistrés disent se sentir abandonnés. Albertine Gonéye, commerçante à Bégoua, lance des appels à l'aide aux autorités, organisations humanitaires et personnes de bonne volonté. Les inondations sont devenues fréquentes ces dernières années à Bangui, avec de fortes précipitations pendant la saison des pluies.
Au Niger, la justice sévit contre des violences policières perpétrées à la mi-avril sur le campus universitaire de Niamey. Hier, 3 policiers ont été condamnés à 1 an de prison ferme et à de lourdes amendes. Éric Manirakiza.
Les 3 policiers sont membres de la brigade anti-émeute. Ils ont été reconnus coupables de causes et blessures avec préméditation. En avril dernier, ils ont été filmés en train de matraquer un étudiant qu'ils avaient interpellé lors d'une manifestation sur le campus de Niamey. La vidéo, abondamment diffusée sur les réseaux sociaux, avait provoqué une vive colère, poussant la police à remettre ses 3 agents à la justice. En plus d'un an de prison ferme, ils doivent également verser à la victime 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ce mouvement des étudiants a été lancé pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Un étudiant a été tué par le tir d'un gendarme, d'après les conclusions d'une enquête indépendante publiée jeudi dernier.
6 hommes ont été tués hier dans un village du nord-est du Nigeria lors d'une attaque de combattants de Boko Haram. Un responsable d'une milice locale luttant contre le groupe djihadiste nigérien a indiqué à l'AFP que 9 combattants de Boko Haram seraient arrivés vers 14h, soit 13h GMT, dans le village de Kidjimatari, situé au nord-ouest de l'état de Borno. Ils auraient alors pénétré dans les maisons des 6 habitants, dont celle du chef des villages, avant de leur trancher la gorge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est lancé hier soir dans une attaque en règle contre les membres des médias américains qu'il a assimilés à des traîtres, les qualifiant de personnes mauvaises qui n'aiment pas leur pays. C'était à l'occasion d'un rassemblement politique à Phoenix, dans l'Arizona, compte rendu de Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a commencé son intervention par une répétition de ses précédentes déclarations critiquant les néo-nazis et les racistes du Ku Klux Klan après les violences meurtrières du 12 août dernier à Charlottesville en Virginie. Mais le président a omis les mots les plus controversés qu'il avait utilisés pour envoyer dos à dos tenants de la suprématie blanche et contre-manifestants. Donald Trump a également accusé les médias de ne pas se faire l'écho de ses commentaires, ajoutant qu'il est quelqu'un qui veut dire la vérité, une personne honnête. Les 2 sénateurs républicains de l'Arizona, John McCain et Jeff Flake, qui ont eu plusieurs accrochages avec le président, n'ont pas participé au rassemblement et le président les a critiqués sans mentionner leur nom. La présence de Donald Trump à Phoenix a attiré des dizaines de milliers de ses partisans et de protestataires au centre-ville et les forces de sécurité se sont évertuées à éviter tout incident entre les 2 côtés. La police a cependant usé de gaz lacrymogène après le discours contre des manifestants anti-Trump.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson estime que la nouvelle stratégie du président Donald Trump va changer la dynamique dans la plus longue guerre américaine en Afghanistan. On parle de l'Afghanistan ici. Et c'est dû, selon lui, au nouveau pouvoir donné aux chefs militaires américains pour prendre des décisions fondées sur les conditions sur le terrain en Afghanistan plutôt qu'à la considération d'autres facteurs de politique locale ou autre.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a déclaré hier lors d'une visite surprise en Irak que des progrès importants ont été faits pour chasser du pays les djihadistes du groupe État islamique. Des villes ont été libérées du joug de ce groupe, tout comme des populations irakiennes, a souligné M. Mattis, il a ajouté que les combattants djihadistes se sont révélés incapables de tenir tête, je cite, à notre équipe ou de reconquérir les territoires repris à l'organisation État islamique. Avant de se rendre à Bagdad, où s'est entretenu avec le Premier ministre Haider al-Abadi, le chef du Patagone avait dit que les jours du groupe étaient comptés.
Et puis, la cellule djihadiste accusée de sanglants attentats en Catalogne, revendiquée par le groupe État islamique, préparait une attaque de plus grande ampleur. C'est ce qu'a confirmé hier l'un des 4 suspects. Précision de John Linden.
Mohamed Oulil Chemlal et les 3 autres survivants de la cellule ont été inculpés pour appartenance à une organisation terroriste, assassinat terroriste et possession d'explosifs. Il a confirmé hier devant le juge d'instruction les déclarations qu'il avait déjà faites en garde à vue. Il avait affirmé que la cellule préparait un attentat plus important que les deux attaques de Barcelone et de Cambrils qui ont fait 15 morts et plus de 120 blessés. Mohamed Oulil Chemlal avait été blessé dans l'explosion d'une maison à Alcanar au sud de Barcelone où la cellule aurait préparé les attaques. Sous les décombres, les policiers ont découvert 120 bonbonnes de gaz et des traces de substances habituellement utilisées pour fabriquer un explosif prisé par l'État islamique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Jacques Aristide.
Le gouvernement ivoirien a interdit ce qu'il qualifie de faux frais sur le convoyage des ovins et bovins. D'après le directeur général du commerce intérieur, seuls les frais liés au contrôle sanitaire des animaux au poste frontalier sont autorisés. Aimé Koizan appelle à tous les opérateurs économiques à respecter ces dispositions sous peine de sanctions. Abidjan a également renforcé la sécurisation des routes d'approvisionnement. Ces mesures interviennent à la proche de la Tabaski et vise aussi à lutter contre la vie chère. En Angola, le candidat du parti au pouvoir aux élections générales a promis hier un miracle économique dans son pays qui traverse une grave crise en raison de la chute des cours du pétrole. João Lourenço dit vouloir privilégier les capitaux étrangers. L'Angola est le principal producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. Mais depuis 3 ans, son économie est marquée par une forte dette, une inflation galopante et la chute de la monnaie locale. Le président sud-africain Jacob Zuma a signé une loi sur la réglementation du secteur financier pour mieux protéger les clients et les institutions financières, surtout après que certaines banques sud-africaines ont été accusées de laxisme concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Match reporté à Conakry entre la Guinée et le Sénégal.
Et oui, le match retour des qualifications du CHAN 2018 prévu hier à Conakry a été reporté à ce mercredi et ce en raison des fortes pluies qui s'abattent sur la capitale guinéenne, annonce de la Fédération guinéenne. On espère qu'aujourd'hui la pelouse du stade du 28 septembre sera praticable, mais gros point d'interrogation. On rappelle le score à l'aller Idrissa, le Sénégal l'avait emporté 3-1 devant le Sili National.
La querelle entre Neymar et le FC Barcelone n'est pas terminée.
Oui, le FC Barcelone a déposé plainte contre Neymar. Le Barça évoque un non-respect de contrat et réclame la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant brésilien, transféré, vous le savez, début août au Paris Saint-Germain. Le Barça réclame aussi 8,5 millions d'euros de dommages. C'est ce qu'a annoncé hier le club catalan. On précise que le Barça affirme qu'il réclame au PSG le versement de ces sommes si l'attaquant brésilien n'est pas en mesure de le faire.
Barrage autour de la Ligue des Champions hier soir.
Très net vainqueur à domicile 5-0, le Celtic Glasgow a été battu hier à Astana au Kazakhstan 3-4, ce qui ne l'empêche pas d'assurer sa place en phase de poule de la Ligue des Champions. Victoire également de Maribor qui se qualifie aux dépens du club israélien de la Hapoel Be'er Sheva 1-0. L'Olympiakos du Pirée s'est imposé en Croatie face à Rijeka 1-0 et se qualifie. Même score qu'au match aller pour les Napolitains qui l'emportent 2-0 sur la pelouse de Nice. Et puis le FC Séville tenu en échec 2-partout face à Istanbul Başakşehir, mais les Sévillans l'avaient emporté 2-1 à l'aller.
L'afro-basket dames se poursuit au Mali.
Après une journée de repos, lundi, les basketteuses ont repris le chemin des parquets hier. La République démocratique du Congo battue par le Mozambique 42-52. Défaite également de la Tunisie contre le Cameroun 49-64. Les Maliennes domine la Centrafrique 97-38. Le Nigeria et le Sénégal ont le sourire, comme nous l'explique Amdinsi sur place pour VOA Afrique.
Le Sénégal poursuit sa marche victorieuse. Les Lions ont signé leur 4e victoire d'affilée en dominant l'Égypte sur le score de 93-61 grâce à une excellente Assou Traoré, meilleure réalisatrice de ce match avec 26 points. Elle a été bien épaulée par Ramata Dao, auteur d'un double-double, 17 points, 12 rebonds. Les filles de
Mustapha Gueye ont dominé cette rencontre de bout en bout en remportant tous les 4 ans. En seconde heure, le Nigeria a surclassé la Guinée sur le score de 106 à 33. Comme les Sénégalais les protégés de Saint-Vincent balaient tout sur leur passage. D'ailleurs, le Nigeria, qui totalise 4 succès de rang, occupe la première place de la poule B devant le Sénégal. Ces deux formations se retrouvent au palais des sports Salima Tamaïka de Bamako, d'où vous a parlé Amédine Sy pour VOAfrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, la chute d'une partie de la décharge de Dar es Salaam, un quartier de la banlieue de Conakry, a détruit des maisons et fait 5 morts ainsi que 10 blessés. La capitale guinéenne produit 1000 tonnes de déchets par jour et ne possède qu'un seul dépotoir public qui s'élève au-dessus des habitations. Les opérations de recherche se poursuivaient hier encore pour retrouver d'éventuels survivants. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Selon les témoins, plusieurs habitations sont ensevelies après la chute d'énormes quantités d'ordures.
Le matin, lorsque la pluie menaçait, oui, il y avait la machine qui travaillait en haut. Et je voyais. Donc, c'est juste après ça, la machine, lorsqu'elle a dégagé, maintenant, c'est ça qui a fait tout ces dégâts.
Après plusieurs heures de pluie, les habitants du quartier ont été alertés par un éboulement. Des amas d'ordures se sont déversés sur des maisons et des ramasseurs d'objets de rebut. Les victimes sont sous le choc.
Pendant la nuit, nous avons entendu une machine qui repoussait les ordures. Ça a duré de 23h à 5h du matin. Ma maison est sous les ordures avec mes enfants et mes petits-enfants.
Selon un bilan provisoire communiqué par le gouvernement guinéen, l'éboulement dans la décharge de Dar es Salaam a causé la mort de 5 personnes et fait une dizaine de blessés. Le président Alpha Condé, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a laissé les opérations de secours se poursuivre. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Les Togolais attendent depuis 11 ans de voir leur constitution dans sa mouture initiale. Pour y arriver, le 20 août 2006, un accord a été signé entre le pouvoir, les principaux partis politiques et la société civile, mais les réformes n'ont toujours pas été opérées jusqu'à ce jour. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les Togolais ont soif de réformes, soif de la limitation du mandat présidentiel et d'un scrutin à 2 tours. Une soif qui perdure depuis le 30 décembre 2002, date à laquelle la constitution togolaise votée par référendum en 1992 a été toilettée. Le 20 août 2006, l'accord politique global APJ a été signé, suscitant l'espoir des réformes avant la présidentielle de 2010. 11 ans après, toujours pas de réformes. Il ne faut pas se leurrer. Le pouvoir de Lomé ne veut pas opérer les dites réformes, affirme Atiadam Tipi, président du Parti national panafricain, PNP.
C'est le refus évident de l'alternance. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix et éternellement. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas faire des réformes. Du constitutionnalisme, ils n'en veulent pas, c'est-à-dire un pouvoir limité dans le temps et dans les prérogatives. Ils n'en veulent pas. Ils sont réfractaires à cette idée. Il y a longtemps que moi je suis revenu de mes illusions. Dialoguer et signer, et puis après, bon, on vous tourne en bruit.
Une accusation que réfute le parti au pouvoir. Union pour la République unie persiste ici ne pas être contre les réformes. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR.
Personne n'est contre les réformes, ni le chef de l'État, ni le gouvernement, ni le groupe parlementaire UNIR, ni le parti UNIR lui-même. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont concernés par cette question puissent se mettre ensemble, discuter et aboutir à un consensus. Et ce qui se passe en ce moment avec la mise en place de cette commission qui est en train de faire un travail. On veut les réformes, mais nous souhaitons que ça se fasse dans un cadre consensuel. Parce que quelle que soit la formule adoptée, il faudra s'asseoir autour d'une table, discuter pour aboutir à ces réformes.
Il ne faut pas seulement indexer Fornia Singe son régime. L'opposition leur a servi de béquille en participant aux élections sans les réformes, estime le professeur Togwata Pedoama.
Il ne fallait pas participer aux élections tant que les réformes n'ont pas été mises en route. Il ne faut pas cautionner la dictature en participant à des élections à tout prix. En réalité, c'est la mobilisation du peuple qui fera changer ce régime. Tant que le régime ne se sentira pas inquiété par une telle mobilisation, eh bien, les choses perdureront.
Sous l'air de Fogne Singé, les appels pour ces journées villes mortes n'ont pas connu de franc succès. Reste à savoir si avec cette nouvelle mobilisation, l'opposition togolaise aura gain de cause. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur le recours croissant à des enfants kamikazes, dont des filles, pour la plupart. Leur nombre a quadruplé par rapport à l'année dernière. Ces enfants sont utilisés par Boko Haram dans le nord-est du pays, région marquée marqué par son grand nombre de personnes déplacées et où 450 000 enfants souffrent de la malnutrition. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Genève le porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulierac.
C'est une pratique épouvantable qui relève vraiment d'un niveau extrême de l'atrocité qui consiste à utiliser les enfants, particulièrement les filles, pour procéder à des explosions, donc utiliser des enfants pour leur fixer des bombes sur eux dans des endroits souvent peuplés pour tuer non seulement évidemment ces enfants, mais également des personnes dans ces endroits.
D'où viennent ces enfants avant d'être enrôlés?
Ils proviennent souvent des groupes armés qui utilisent cette pratique atroce. Et au nord-est du Nigeria, c'est Boko Haram. Ces enfants sont avant tout des victimes. Ils ont été souvent recrutés de force, ils ont subi et enduré beaucoup de souffrances. Ils sont donc utilisés comme bombes humaines, ce qui a pour effet de compliquer le retour à la vie civile des enfants qui ont réussi à quitter ou à s'évader de ce groupe Boko Haram, puisque l'utilisation des enfants crée de la suspicion, crée du rejet. Ceux qui réussissent à sortir des groupes armés ont d'autant plus de difficultés à se réintégrer dans la vie civile parce qu'ils sont soumis à des mécanismes de rejet, de stigmatisation, de peur.
Vous dites qu'ils sont victimes de stigmatisation, mais ils sont aussi auteurs de ces attaques.
C'est toujours difficile de dire qu'ils sont auteurs de ces attaques parce qu'ils sont manipulés, ils sont forcés, ils sont parfois drogués. Oui, vous avez raison, la population s'en méfie. Le retour à la vie civile de jeunes qui ont été dans des groupes armés est toujours compliqué psychologiquement, émotionnellement. Et il est clair que ce genre de pratique épouvantable qui est en pleine augmentation complique d'autant plus ce retour à la vie civile de par la stigmatisation, de par le rejet additionnel que ces enfants qui souhaitent revenir à la vie civile inspirent aux communautés. Il y a beaucoup de travail à faire, travailler avec les communautés et faire en sorte que les personnes et les agents qui ont de l'influence dans ces communautés du nord-est du Nigeria arrivent à persuader les communautés, les familles, les villages à donner de la place et à accueillir ces enfants. Il faut aussi évidemment que ces enfants, une fois que un climat de réconciliation a pu être renoué, bénéficier aussi de soutien économique. Jusqu'à présent, nous avons pu aider 3000 enfants et 1200 familles dans cette région du nord-est du Nigeria, justement avec ce travail communautaire de promotion de la réconciliation, de l'acceptation, de la tolérance par rapport au retour de ces enfants.
C'était le porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulierac. C'est aujourd'hui que le corps de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, arrive à Ouagadougou, où un deuil national de 3 jours a été décrété par le président Roch Marc Christian Kabore. Monsieur Diallo est décédé à Paris samedi dernier. À l'Assemblée nationale, amis et adversaires politiques de Salif Diallo se succèdent pour signer un livre de condoléances et rendre hommage aux défunts. De la capitale burkinabé, notre correspondant Issa Napon.
Alors que le pays s'affaire au rapatriement de la dépouille mortelle de Salifou Diallo ce mercredi à Ouagadougou, les hommages et les questionnements se poursuivent. Au siège de l'hémicycle, le cahier de condoléances continue à se noircir d'encre. Chacun des visiteurs, comme Mohamed Awargas, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, laisse une partie de ce sentiment sur l'illustre défunt.
La disparition subite de Salifou Diallo est une grande perte pour le Burkina Faso, aussi bien sur le plan politique que sur le plan humain. C'était un grand homme politique qui a marqué l'histoire du Burkina Faso sur le plan politique et l'a contribué fortement à l'évolution politique et démocratique de son pays. Durant toute sa vie, il a consacré son effort, son énergie pour le Burkina Faso.
La ténacité et le tact de Salifou Diallo dans le traitement des dossiers sont des constantes remarquables, explique Mathias Sommé, chargé de la prospective du bureau exécutif national du mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir.
Quand il est convaincu de quelque chose, il n'en démord pas. Il peut ne pas arriver à convaincre quelqu'un, mais il prendra le temps et les moyens pour le faire. C'est un fin diplomate. Tout le monde s'attendait à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y ait toujours des étincelles, ça et là. Mais Salif, de par son approche, sa capacité à impliquer tous les acteurs, il arrive à mettre tout le monde d'accord. Tous ceux qui étaient contre lui se sont rendus compte que non, au fond, c'est un homme d'État. Il n'en veut à personne, il n'en veut au problème. Je pense que nous saurons apporter les aménagements nécessaires pour que la dynamique qu'il a contribué à créer ne connaisse pas une rupture.
Même ses plus farouches adversaires politiques lui reconnaissent le sérieux dans ses engagements, témoigne Achille Tapsoba, président par intérim du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès.
Oui, c'était quelqu'un de très ponctuel. Quand le ministre Salif Diallo tient une réunion à 7 heures, l'ouverture de la réunion c'est 7 heures. Il donne des rendez-vous à la minute près. Et 2 minutes après, votre rendez-vous est annulé. Si vous venez avec 2 minutes de retard. Il est arrivé au ministre Salif Diallo de signer des documents à la coupée de l'avion avant d'embarquer pour une mission. Voilà un peu sa méthodologie et la disponibilité qu'il fait preuve dans son travail.
Qu'il ait été apprécié ou pas, Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale récemment disparu, n'a laissé personne indifférent tout au long de sa carrière politique. Craint ou admiré par ses camarades politiques, tout comme par ses adversaires, tous reconnaissent en lui l'image d'un grand leader, d'un homme de combat et de conviction, d'un homme qui n'avançait pas masqué. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Steady wind coming in stereo. Tail lights disappearing about a mile or so down the county road.
aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sirudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.